the 45th President of the United States of America, Donald J. Trump.
Un jour dans le monde.
And God bless America.
Sur France Inter.
Trump à la Maison Blanche, c'est notre rendez-vous du lundi avec les États-Unis et avec Frédéric Carbone. Bonjour.
Bonjour Nicolas.
Vous êtes en direct de Washington, Frédéric, on l'évoquait déjà lundi dernier, mais là les choses se confirment. Virage à 180 degrés de Donald Trump sur la politique étrangère.
Ah, qu'est-ce qu'on est loin effectivement de cette profession de foi. Je ne suis pas le président du monde, énoncé fin février lors de son discours devant le Congrès. Russie, Syrie, Corée du Nord, Afghanistan, tous les fronts sont ouverts en même temps. Et l'image de ce lundi, c'est bien le vice-président Mike Pence avec son blouson d'aviateur dans la zone démilitarisée entre les deux Corées. Alors, à la différence des néoconservateurs période George Bush, on n'a pas de discours de volonté d'exporter la démocratie américaine, aucune référence aux droits de l'homme. En ce moment, je n'ai pas vu par exemple la moindre réaction des États-Unis au référendum en Turquie dont vous avez longuement parlé. Mais voilà bien une politique étrangère interventionniste, républicaine, assez classique. Donald Trump s'est-il donc rallié à ce genre de thèse? Question posée au sénateur McCain.
Je l'espère. Je sais qu'il a bâti une équipe solide sur la sécurité nationale et il écoute ses conseillers. Depuis 8 ans, nous n'avions pas eu à répondre des crimes de guerre parmi les plus horribles de l'histoire. Au moins, il a fait quelque chose et maintenant j'espère qu'il y aura une vraie stratégie mise en place.
On sent dans les propos d'un des républicains les plus sceptiques vis-à-vis de Donald Trump, à la fois de l'approbation, mais aussi de façon sous-entendue le fait que les vrais décideurs, ce sont le ministre de la Défense, Jim Mattis, et le patron du Conseil de Sécurité Nationale, le général McMaster, deux militaires qui réfléchissent depuis longtemps à ces enjeux. Mais si le président américain est sous influence, c'est de façon totalement consentante. Pendant cette fameuse interview sur Fox Business, vous en avez entendu parler, Nicolas, où il raconte avec délectation comment il a informé le président chinois de la frappe en Syrie autour d'un gâteau au chocolat. Eh bien voilà de quelle manière il décrit sa fascination pour l'arsenal militaire américain.
C'est tellement incroyable, c'est brillant, du génie. Notre technologie et nos équipements sont 5 fois meilleurs que n'importe quel autre. Dans ce domaine, personne ne peut rivaliser avec nous. Maintenant, on va commencer à en prendre soin parce que les militaires ont été très maltraités par la précédente administration et aussi lors de la guerre en Irak qui a été un autre désastre.
Bon, ça c'est pour la ligne « je ne suis pas Obama », ça va être le message permanent pendant 4 ans. Ce goût pour la chose militaire, il inquiète ceux qui n'ont pas voté pour Donald Trump. Il y avait ainsi ce week-end une manifestation sur la question de la transparence fiscale, mais évidemment, dans le contexte de la tension en Corée du Nord, les préoccupations étaient beaucoup plus larges. Sam, par exemple, est venu avec sa pancarte « rien de tel qu'une guerre quand on a besoin de faire diversion ».
Je pense qu'il a tellement de problèmes qu'il cherche n'importe quoi pour détourner l'attention. Ne l'oubliez pas, depuis Ronald Reagan, il y a cette idée qu'une bonne petite guerre peut faire du président des États-Unis un héros. Et Donald Trump veut être un héros. Donc un de ses conseillers a dû lui dire qu'il avait besoin d'apparaître comme un dur. Et la réalité pour lui, c'est ce qu'il croit à un moment donné. Je ne suis pas sûr qu'il soit sain d'esprit. En fait, il se conduit comme un enfant de 13 ans.
Et du coup, Frédéric, les priorités de Trump en politique intérieure, cette fois, passent au second plan?
Absolument. Et sur les questions économiques, on est même comme en politique étrangère dans le registre du grand virage. L'exemple le plus frappant, c'est que la Chine n'est plus accusée de manipuler sa monnaie pour fausser le jeu commercial. Il faut bien que Pékin donne un coup de main dans la crise nord-coréenne. Aujourd'hui, à la Maison-Blanche, sur toutes ces questions, la personne la plus influente, c'est le patron du Conseil économique, Gary Cohn, ancien dirigeant de Goldman Sachs, et non plus le gardien du temple populiste et nationaliste Steve Bannon. La réalité aurait ainsi rattrapé Donald Trump, et ce n'est pas plus mal, explique Stephen Moore, qui était un de ses conseillers pendant la campagne.
Parfois, les circonstances changent et vous devez changer votre opinion. Je veux qu'il soit présidentiel, qu'il s'adapte aux circonstances. Il faut un équilibre, mais il ne faut pas qu'il abandonne toutes les promesses de campagne. Il a le noyau dur, des baisses d'impôts, la réforme de la santé, le commerce avec la Chine. Et ça, il ne faut pas qu'il y touche.
Alors c'est justement là qu'il risque d'y avoir un problème, parce que pour les baisses d'impôts promises, il faut la réforme de la santé qui dégagera des économies. Donc Donald Trump a déjà prévenu qu'il ne fallait pas s'attendre à cette réforme fiscale avant l'été, comme il l'avait pourtant promis.
Toujours en politique intérieure, Frédéric, il y a demain une élection test à regarder de près. Pour quelle raison ?
Eh bien, parce que c'est le premier vrai test depuis le 8 novembre et que cela se passe justement sur les terres du ministre chargé de la très compliquée réforme de la santé en Géorgie, fief traditionnellement républicain, mais que les démocrates espèrent conquérir lors de cette élection à la Chambre des représentants. Ils ont dépensé beaucoup d'argent, ils ont mobilisé les vedettes, ce qui n'avait par parenthèse pas forcément marché pendant la présidentielle. Voici quand même l'appel de l'acteur Samuel Jackson.
Stop. Stoppez Donald Trump, un homme qui encourage les discriminations religieuses et le sexisme. Souvenez-vous de ce qui s'est passé la dernière fois que les gens sont restés à la maison. On s'est retrouvés avec Trump. Nous devons manifester notre esprit de vengeance et de colère face à une administration en allant voter.
Ouais. Et on regardera ça de d'autant plus près, Nicolas, que le candidat démocrate est un novice, un jeune trentenaire, et s'il gagne, il deviendrait l'emblème d'une nouvelle génération, l'équivalent de cette vague Tea Party des républicains après l'élection de Barack Obama. C'est pour éviter le risque de contagion que Donald Trump se mêle sur Twitter de cette élection très locale, en dénonçant un candidat super libéral, pro-immigration et laxiste face aux criminels.
Allez, on finit avec un point agence de voyage. Trump est sédentaire.
Oui, beaucoup plus que ses prédécesseurs, en tout cas, avec un principe America first et Mar-a-Lago second. Contrairement à Obama et Bush, il n'a pas effectué un déplacement à l'étranger dans ses trois premiers mois de présidence. Et il a aussi beaucoup moins sillonné les États-Unis, de rares déplacements uniquement dans des États où il avait emporté en novembre. En revanche, il a déjà résidé 24 jours dans son club privé de Floride. Et la chaîne CNN a calculé qu'entre cette résidence, ses golfs et ses hôtels, Donald Trump n'a jamais passé plus de 3 jours sans une étape dans une de ses propriétés, une sorte de présidence à domicile.
Frédéric Carbone en direct de Washington. Merci.